Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La République est un dialogue philosophique de Platon. Composé au IVe siècle avant notre ère et construit autour de discussions menées par Socrate avec plusieurs interlocuteurs, notamment Glaucon et Adimante. Son problème initial paraît simple, pourquoi être juste, surtout lorsque injustice et impunité peuvent sembler avantageuses. Pour y répondre, le dialogue examine la justice à une échelle élargie, celle de la cité, avant de la rapporter à la structure de chaque âme humaine. Platon élabore ainsi le modèle théorique d'une cité ordonnée, non comme un programme institutionnel immédiatement applicable, mais comme un instrument pour penser les rapports entre pouvoir, savoir, éducation et désir. L'ouvrage associe philosophie morale, théorie politique, réflexion pédagogique, psychologie et critique de la poésie imitative. Il contient des images devenues centrales dans la tradition occidentale, dont la comparaison de la ligne, le soleil du bien et l'allégorie de la caverne. La traduction de Pierre Pachet rend accessible ce texte majeur, dont les propositions restent à la fois fécondes et profondément controversées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la justice comme ordre des fonctions dans la cité et dans l'âme. La question de la justice ne reçoit pas chez Platon une réponse limitée au respect des lois ou à la répartition équitable de biens. Socrate cherche plutôt une structure dans laquelle chaque élément accomplit sa tâche propre, sans usurper celle des autres. Dans la cité, cette idée conduit à distinguer les producteurs, les gardiens chargés de la défense et les gouvernants. La justice apparaît lorsque ces groupes coopèrent selon leurs compétences et que le pouvoir ne se laisse pas confisquer par la richesse, la force militaire ou les appétits immédiats. Le raisonnement est ensuite transposé à l'individu. Platon distingue dans l'âme une part rationnelle capable de juger, une part ardente liée au courage et à l'honneur, ainsi qu'une part désirante tournée vers les satisfactions matérielles. Un individu juste n'est donc pas seulement celui qui présente une conduite extérieure conforme il est intérieurement gouverné par la raison, soutenu par le courage, tandis que les désirs reçoivent une mesure. Cette analogie entre cité et âme est décisive, car elle lie directement éthique et politique. Les institutions ne sont pas neutres, elles favorisent certains caractères. Réciproquement, une communauté juste exige des citoyens capables de discipline intérieure. La thèse demeure discutable, notamment parce qu'elle fixe fortement les fonctions sociales, mais elle fournit une analyse exigeante du désordre comme conflit entre principes rivaux. Deuxièmement, la spécialisation sociale et les trois groupes de la cité idéale, la construction de la cité commence par l'examen des besoins élémentaires nourriture, logement, vêtements, échanges et protection. Platon en déduit que nul ne se suffit durablement à lui-même et que la coopération devient plus efficace lorsque chacun exerce prioritairement le métier auquel ses dispositions le rendent apte. Cette division des tâches constitue le point de départ économique de la cité. Elle ne correspond toutefois pas à une simple recherche de rendement. Elle devient un principe politique lorsque Platon établit trois fonctions principales : produire les ressources, défendre la communauté et gouverner selon le savoir. Les producteurs assurent la vie matérielle, les auxiliaires incarnent le courage et protègent les décisions communes. Les gouvernants doivent posséder la connaissance nécessaire pour orienter la cité vers le bien. Le modèle vise à empêcher que les intérêts propres d'un groupe deviennent la règle générale. Platon refuse notamment que la richesse détermine automatiquement la compétence à gouverner. Cette architecture a une force analytique durable, elle oblige à distinguer expertise, puissance et intérêts économiques, souvent confondus dans la vie publique. Elle soulève aussi une objection majeure. En assignant les individus à des rôles stables, elle risque de réduire leur liberté de choisir et de changer de conditions. Le dialogue affirme pourtant que la sélection doit dépendre des aptitudes révélées par l'éducation, et non simplement de la naissance, ce qui le distingue des hiérarchies purement héréditaires. Troisièmement, l'éducation des gardiens et l'ascension vers la connaissance du bien pour Platon. Aucune constitution ne peut être juste si elle ne forme pas les jugements et les désirs de ceux qui la servent. L'éducation des gardiens combine gymnastique pour le corps et musique au sens ancien, comprenant récits, poésie et formation morale. Le choix des récits importe parce que les représentations transmises dans l'enfance façonnent les habitudes de courage, de modération et de respect du vrai. Platon veut donc écarter les fictions qui présentent les dieux ou les héros comme trompeurs, lâches ou dominés par leurs passions. Cette position explique sa critique célèbre de certaines formes de poésie imitative. Le parcours des futurs gouvernants va ensuite bien au-delà de cette première formation. Les mathématiques, la géométrie, l'astronomie et la dialectique exercent l'esprit à ne pas s'en tenir aux apparences sensibles. L'allégorie de la caverne condense ce mouvement des êtres habitués aux ombres, doivent apprendre à se tourner vers ce qui éclaire et rend intelligibles les choses. Le soleil y représente le bien, principe qui permet de connaître et qui donne leur orientation aux autres réalités. La leçon politique est nette, gouverner correctement demande davantage que de maîtriser les opinions dominantes ou les techniques administratives. Cela exige une éducation longue, une capacité à examiner les présupposés et un rapport désintéressé au savoir. Le texte pose ainsi une exigence intellectuelle élevée pour la décision publique. Même si son contrôle des arts et des récits heurte les conceptions modernes de la liberté culturelle. Quatrièmement, le philosophe gouvernant face aux faiblesses de la démocratie. La République soutient une thèse fameuse, les maux des cités ne cesseront pas tant que les philosophes ne gouverneront pas, ou que les gouvernants ne deviendront pas réellement philosophes. Cette formule ne désigne pas le pouvoir d'un érudit isolé. Le philosophe est celui qui cherche ce qui est stable et juste plutôt que les honneurs larges ou les succès immédiats. Parce qu'il connaît l'orientation du bien, il serait le mieux placé pour décider en fonction de l'intérêt commun. Platon oppose cet idéal au régime dégradé qu'il analyse timocratie, oligarchie, démocratie et tyrannie. Sa critique de la démocratie antique ne vise pas seulement la participation populaire. Elle porte surtout sur une liberté sans mesure, sur la compétition des flatteurs et sur la possibilité que le désir de satisfaire toutes les opinions prépare l'essor d'un chef tyrannique. L'image du navire illustre cette critique. Si chacun prétend diriger sans apprendre l'art de naviguer, la compétence véritable paraît inutile ou suspecte. Cette argumentation demeure essentielle pour penser les rapports entre expertise et consentement populaire. Elle ne fournit pas pour autant une justification simple de la technocratie moderne. Le pouvoir philosophique platonicien suppose une formation morale exceptionnelle et une absence d'intérêt personnel, condition difficile à garantir. Le dialogue force donc le lecteur à examiner une tension toujours active, comment exiger des dirigeants compétents sans soustraire le gouvernement à la délibération et au contrôle. Des citoyens ? En dernier lieu, communauté des gardiens, place des femmes et critique de l'imitation de la propriété, afin de préserver les gardiens des conflits d'intérêts. Platon propose pour eux une organisation radicale, ils ne doivent pas disposer de richesses privées importantes, de foyers familiaux exclusifs, ni d'un pouvoir transmissible à leurs descendants. Leur vie commune doit empêcher que la défense de la cité ne se transforme en protection de patrimoine particulier. Les producteurs ne sont pas soumis de la même manière à cette communauté des biens, ce qui montre que la mesure concerne d'abord la classe dirigeante et militaire. La réforme familiale vise aussi à faire prévaloir le souci de la communauté sur les loyautés domestiques. Elle est l'une des dimensions les plus contestées du dialogue, car elle confie à la cité une autorité considérable sur la reproduction, l'éducation et les liens de parenté. Platon affirme également que les femmes capables de remplir les fonctions de gardien ou de gouvernant doivent recevoir la même formation que les hommes et pouvoir exercer ces charges. Dans le contexte grec ancien, cette thèse représente une rupture significative avec l'exclusion politique habituelle des femmes. Elle ne repose cependant pas sur une conception moderne de l'égalité des droits individuels, elle sert principalement la sélection des meilleures aptitudes pour la cité. Ce double aspect explique l'intérêt durable du passage. Il associe une ouverture remarquable concernant les capacités des femmes à un projet collectif très contraignant. La République invite ainsi à distinguer l'égalité d'accès aux fonctions, liberté personnelle et contrôle institutionnel de la propriété ou de la famille. En conclusion, la République convient aux lecteurs qui souhaitent comprendre les origines de nombreuses questions de philosophie politique que signifie « gouverner » justement. Quelle éducation forme un citoyen ? Faut-il confier les décisions aux plus compétents ? Et comment les intérêts privés défend-il la vie commune ? Elle intéressera aussi les lecteurs de philosophie morale et de psychologie, car Platon ne sépare jamais la santé de la cité de l'ordonnance intérieure des individus. Une lecture accompagnée est souvent utile, tant le dialogue avance par hypothèses, images et objections, et tant ses propositions peuvent sembler éloignées des normes contemporaines. Son bénéfice intellectuel principal est de rendre visibles les présupposés de tout régime, une politique repose toujours sur une idée du bien, sur une hiérarchie des savoirs et sur une certaine formation des désirs. Par rapport à d'autres traités politiques, l'ouvrage se distingue par son ambition architecturale. Il ne propose pas seulement des règles de gouvernement. Il relie organisation économique, fonction sociale, éducation, métaphysique, art et caractère individuel dans un même modèle. Cette cohérence explique sa puissance, mais aussi les critiques qu'il suscite: rigidité des rôles, censure, subordination de la sphère privée et défiance envers la démocratie. Lire Platon ne demande donc pas d'adopter sa cité idéale. Cela permet plutôt de mesurer la radicalité des choix nécessaires lorsque l'on prétend définir la justice au lieu de la réduire à l'intérêt, à la force ou à la procédure. C'est pourquoi ce dialogue demeure incomparable comme laboratoire de pensée politique. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.